Donc, je souhaite la bienvenue à cette dernière session intitulée Claude Ryan, intellectuel public dans le monde des médias. Et on a trois intervenants distingués. Avant tout, je pense, monsieur Bernard Descoteaux n'a pas besoin d'introduction. Il est un journaliste très bien connu au Canada et ailleurs, comme huitième directeur du journal Le Devoir. Madame Gisèle Galichan a eu plusieurs carrières, je pense, comme animatrice, actrice et comme membre de plusieurs commissions avant de revenir à sa première vocation, telle de journaliste. Elle a travaillé pour plusieurs stations de radio, surtout avec Radio-Canada au Québec. And Mark Raboy is the Beaverbrook Chair in Ethics, Media and Communications at McGill University and a professor of art history and communication studies. He's a former journalist in a wide variety of media, has previously taught at l'Université de Montréal and at l'Université Laval, and is the author of numerous books and articles. J'aimerais commencer aujourd'hui avec un paragraphe d'une lettre que Claude Ryan m'a envoyée en réponse à une lettre que je lui avais écrite après son ACV en 2003. Et on voit là vraiment, je pense, l'intensité de cet homme. Olivier a parlé avant, comme il était tellement intense, même à écrire ses éditoriaux. Il n'est jamais il n'avait pas l'idée d'un blog, comme un jour du tweet, mais une pensée vraiment développée. And it's interesting how he uses words in this paragraph, writing to me about his pas son stroke, mais son cerebrovascular accident. Il a écrit, I realize more clearly during these past few weeks how our existence is at the same time precious and fragile, how admirable are the faith and energy which enable us to live it with such intensity, and how invaluable are the bonds which help us to find our way through it in solidarity with relatives and friends who love us sincerely and to whom we are attached with equal affection. Dans deux phrases, il parle de foi, énergie, solidarité, affection, intensité. Si nous pouvons aborder aujourd'hui dans cette session aussi ces idéaux comme Claude a fait, je pense qu'on aura fait un bon chemin. Donc on donne 15 minutes à chaque intervenant et après on dit 15 minutes pour des questions. Monsieur Descoteaux.
Merci beaucoup. Alors, tout va bien. Mon premier contact avec M. Ryan remonte à 1974, donc il y a 40 ans. À peu près à ce temps-ci de l'année, il me recevait pour une entrevue de sélection pour un poste de journaliste. J'étais assez intimidé. Et l'entrevue s'est déroulée de façon très, très différente de ce à quoi je m'attendais. Il m'a posé trois questions, puis le reste du temps, c'est lui qui a parlé. Et à la fin, il m'a dit, à sa manière habituelle, « Franchement, M. Descoteaux, je pense que vous aimeriez ça, vous, de voir. » J'ai dit, « Oui, j'aimerais bien ça. » Et effectivement, il avait probablement raison, ça fait 40 ans que je suis au devoir. Mais sa façon d'être, c'était celle-là, très transparent. Il disait les choses très directement. Il n'y avait pas de cachette avec lui. Il nous disait aussi, le matin, « Oui, M. Descoteaux, vous ne l'aviez pas ce matin là, dans votre article. » Il pouvait nous dire ça aussi quand il était devenu chef du Parti libéral, parce qu'il nous voyait un peu comme ses journalistes, ses enfants. Et le devoir à l'interne, la vie, c'était un peu une vie familiale. C'était une PME. Et il se voyait, il était très fier d'être patron d'une PME. Ça faisait partie de ses fiertés. Mais c'était une entreprise quasi familiale. Les contacts étaient très directs, chaleureux. On avait nos divergences, nos chicanes, mais c'était toujours avec beaucoup de familiarité et de sincérité. Je ne voudrais pas ce matin vous faire une histoire de nos rapports personnels, mais plutôt vous présenter le parcours de ce que j'appelle un journaliste citoyen. Le mot citoyen est important ici, et je pense que ça représente bien ce qu'était Claude Ryan. Il est entré au devoir en 1962, à la demande de Gérard Filion, qui se préparait à quitter le devoir, la direction du devoir. Et Gérard Filion avait vu, qu'il le connaissait un peu, avait vu en Claude Ryan quelqu'un qui correspondait presque de façon parfaite aux valeurs du devoir, telles que Henri Bourassa les avait définies Et je vais vous citer un extrait du premier éditorial d'Henri Bourassa, le 10 janvier 1910, un premier numéro du Devoir, où il disait « Pour assurer le triomphe des idées sur les appétits, du bien public sur l'esprit de parti, il n'y a qu'un moyen, réveiller dans le peuple et surtout dans les classes dirigeantes le sentiment du devoir public sous toutes ses formes, devoir religieux, devoir national, devoir civique. » Je pense qu'on ne peut pas mieux dire ce qu'était Claude Ryan, ce qu'il a fait dans toute sa carrière. Ça correspond tout à fait à l'homme et à ses préoccupations. Son premier éditorial, quand il arrive au journal, expose les motifs de son nouvel engagement. Il les voit comme un prolongement de son engagement précédent dans les mouvements sociaux, où, selon ses mots, il cherchait à agir sur le monde d'aujourd'hui et à ouvrir l'homme aux réalités de son milieu, de son époque. La différence sera cette immédiateté que lui offre le journaliste, où le travail, dit-il, consiste à comprendre la scène du monde et à en orienter la marche. Il confessera même dans cet éditorial que, collégien, il n'aimait pas beaucoup le devoir, mais que, devenu militant, il en avait peu à peu découvert le secret qui, il le résumait en quelques mots, qui était d'être le guide de notre conscience collective. L'expression « guide de notre conscience collective » peut paraître grandiloquente, mais pour Claude Ryan, c'était une noble mission. À son arrivée, il ne pouvait pas croire que 2 ans plus tard, à peine, on lui conférait la direction. Le successeur naturel de Gérard Filion était bien sûr André Laurendeau, et dans l'esprit du public, le devoir, c'était le tandem Laurendeau-Filion. Au départ de Filion, en janvier 1963, le conseil du journal décide de mettre en place un conseil de direction plutôt que de nommer un directeur. Il s'y trouve Laurendeau, les éditorialistes Paul Soriol et Claude Ryan, et M. Ryan ne se trouve pas très à l'aise dans cette direction collégiale, et je pense que le conseil en vient à la conclusion qu'il faut nommer un directeur. Évidemment, qui ce sera, ça ne peut pas être Laurendeau, qui à ce moment-là est devenu co-président de la commission sur le bilinguisme et le biculturalisme. Et le débat se fait entre Claude Ryan et Jean-Marc Léger, qui représente Léger, l'aile nationaliste, et Léger, dès ce moment, incline beaucoup vers le mouvement indépendantiste. À la fin, Ryan va l'emporter pour ses qualités d'administrateur et le renouveau qu'il représente pour le journal. Mais dans le conseil, les débats ont été vifs et Ryan, qui était membre du conseil, donc des débats pour le choix du directeur, était un peu mal à l'aise et excédé par la tournure des débats. Il leur a dit à ses collègues, « Moi, j'ai rien commandé, je sors et quand vous aurez pris une décision, vous viendrez me chercher. » C'était pas mal représentatif du caractère de l'homme. Nommé directeur, donc, le 1er mai 1964, dès le lendemain, il expose les principes de son directorat dans le journal. Il insiste sur le caractère particulier de la fonction d'un directeur qui assume à la fois la partie intellectuelle et la partie matérielle de l'œuvre. Il rappelle que le directeur a autorité sur tous les services, privilège qui a pour but d'assurer l'unité de l'institution. Au sein du journal, ce préambule est mal reçu. On se méfie de ce militant catholique à l'heure où le Québec entreprend de couper les ponts avec la religion. Mais comprenons que Claude Ryan entend assumer l'entièreté de ses pouvoirs et que ce journal aura désormais son empreinte. De fait, ce sera le journal de Claude Ryan. Même si à son entrée, il évoque dans un éditorial le recours judicieux et généreux au principe de la délégation du pouvoir pour diriger, il gardera une main ferme sur la gestion de la rédaction tout particulièrement. Il n'y aura pas de tandem Ryan, quelqu'un d'autre. Il assurera lui-même la rédaction en chef jusqu'en 1974, qu'il confiera alors à Michel Leroy. Ceci sous la pression des journalistes qui lui reprochent d'avoir fait du devoir le journal d'un seul homme. Il y a quelque chose de vrai, mais il faut nuancer. Ryan a été plus, dans le fond, plus identifié au devoir par sa personnalité que tout autre directeur, sauf peut-être Henri Bourassa. Mais, par contre, à l'intérieur, c'était une façon de travailler qui était différente. Il savait dialoguer, écouter ses collaborateurs, échanger avec eux, mais ultimement, c'est lui qui tranchait. Et par les décisions, c'est lui qui les portait, donc il voulait que ce soit les siennes. Mais il avait aussi le caractère d'être un homme interventionniste, un homme qui aimait le micromanagement, se mêler de tous les dossiers. Et ce qu'il a gardé tout au long de sa vie, on se souvient de lui quand au ministère de l'Éducation, ses sous-ministres se plaignaient parce que M. Ryan appelait les directeurs d'école directement. Il faisait des choses comme ça, mais c'était le personnage. Nouveau directeur aussi, tout à l'heure je parlais de renouveau, qu'on misait sur Ryan pour changer le journal, faire du renouveau, et il se met au travail. L'image du devoir à ce moment-là est demeurée celle du journal de combat et d'opposition au régime Duplessis des années 1950. En 64, on est au cœur de la Révolution tranquille et le devoir participe volontiers à l'esprit de réforme qui traverse le Québec. On n'est pas en opposition au gouvernement à ce moment-là. Alors, il conçoit que le journal doit changer tant sur le fond que sur la forme. Et il écrit, il nous faut d'abord faire un journal, il décrit ce qu'il veut faire du journal, il dit, il nous faut d'abord faire un journal propre, compétent, vivant, informé, sérieux. Nous devons aussi tenir compte de la diversité des vues plus prononcées qui existent désormais chez nous quant à la façon dont on peut le mieux servir en 1964 les valeurs chrétiennes et les intérêts du Canada français. Dans un éditorial du 10 janvier 1970, où c'est le 60e anniversaire du journal, il fait le constat du changement qui s'est opéré sous sa direction. Conçu comme un instrument au service de certaines idées, le devoir aujourd'hui est peut-être davantage porté à se concevoir et à se définir comme un journal avec tout ce que ce titre comporte d'exigences professionnelles, écrit-il. Il ajoute que le devoir se veut un témoin honnête, impartial, articulé, libre et responsable de la vie qui se fait au jour le jour. Ryan saura aussi moderniser le programme idéologique du devoir en interprétant ce qu'on appelle le testament d'Henri Bourassa. Ainsi, il prend rapidement ses distances de l'Église catholique. Il n'y aura pas de la part de l'ancien militant de l'Action catholique de soumission joyeuse à l'autorité papale, selon l'expression d'Henri Bourassa des années 1920-1930. Le service des valeurs chrétiennes demeure un souci dominant du journal, mais celles-ci prennent des formes plus laïques, dit-il. Et il va en faire la démonstration quand, à l'été 68, Paul VI publie l'encyclique Humanae Vitae sur le mariage et la régulation des naissances. Le jour même, il va réagir, publier un texte où il analyse, réfléchit à l'attitude que le catholique adulte doit adopter face à l'interdiction de la contraception. Il soumet, je le cite, que la docilité attendue de lui, le catholique adulte, ne saurait s'exercer au mépris de sa conscience. Et dans un débat qui va durer plusieurs mois, il ouvre largement les pages du journal à toutes les opinions, ce qui sera tout au long de son directorat une des caractéristiques du journal de permettre à toutes les opinions de s'exprimer au sein du journal. C'était sa façon de voir les choses. Sur la question nationale, il va favoriser, comme ses prédécesseurs, une interprétation plus dynamique du concept d'autonomie provinciale. Il prônera un statut particulier pour le Québec, mais il refusera de conclure que le nationalisme défendu par Henri Bourassa doit être adapté au contexte des années 1970 et amener le devoir à appuyer la séparation du Québec. Le mouvement nationaliste, qui fait des pressions sur lui, en voulut à Ryan en lui reprochant de trahir l'esprit d'Henri Bourassa. Et ce sentiment se renforça après l'élection de 73 où il appuie le Parti libéral de Robert Bourassa. La revue maintenant consacre en 1974 tout un numéro au devoir pour contester l'autorité de Ryan. En introduction, Hélène Pelletier-Baillargeon demande si ce journal peut encore représenter l'instrument quotidien de promotion de combat dont les Québécois ont besoin. Et les journalistes du devoir, ils reprochent à leur patron son conservatisme et sa trop grande proximité des institutions du pouvoir. Quelques semaines plus tard, le journal Le Jour est fondé pour faire concurrence au devoir et il va paraître pendant 30 mois et enlever 7000 abonnés au devoir. Ce fut un moment difficile au sein du journal, les tensions furent fortes, même une grève des journalistes eut lieu à l'automne 1975. Ce qui amena Ryan à s'engager avec plus de collégialité, il sentait le besoin de défendre l'entreprise et de rallier tout le monde. Claude Ryan ne concevait pas son rôle de guide de la conscience collective comme devant l'amener à suivre les humeurs de son lectorat ou des gens qui voulaient faire pression sur lui. Dans cet éditorial du 10 janvier que j'ai déjà cité, il écrit « Le devoir est une voie libre qui pense d'abord au bien réel du peuple et qui dit à chacun sans contrainte les faits et les choses comme il les voit ». Et en témoigne bien la position qu'il prend lors des élections de 1976, ou d'aucune façon il le fait, l'appui qu'il donne au Parti québécois n'est pour répondre aux pressions des nationalistes, il s'est engagé derrière le projet indépendantiste. On l'a dit plus tôt dans le précédent colloque, pour qui lisait les éditoriaux de Ryan et de l'équipe éditoriale du Devoir, il n'y avait pas de surprise. Au jour le jour, ils avaient relevé les scandales et avaient marqué les désaccords avec le gouvernement. Et la conclusion, dans l'esprit de Ryan, s'imposait d'elle-même. Il fallait appuyer un changement de gouvernement. Et c'était au-delà des considérations idéologiques et partisanes, et pour lui, n'avait aucune place dans le débat. Son magistère est exceptionnel. Gérard Filion dira à son décès qu'il fut le plus grand journaliste de sa génération. La rigueur et son intégrité intellectuelle furent sa marque de commerce. Ce qu'il recherche avant tout est un aménagement sans cesse plus démocratique des rapports de force dans la société. Ces rapports privés avec les politiciens font partie de sa recherche justement pour influencer les rapports de force dans un sens ou dans l'autre. On en a parlé et il est bien conscient de l'influence qu'il exerce auprès de certains politiciens. Pour lui, le dialogue, ce n'est pas pour qu'il maintient avec le pouvoir, si on veut prendre cette expression, n'est pas un exercice futile, c'est pour mieux comprendre, mieux renforcer son jugement sur les faits et savoir faire les bonnes suggestions à ses lecteurs. Mais il ne se concentre pas de consulter les puissants. On le voit aussi voir les gens ordinaires se promener. On se souvient qu'à l'émeute de la Saint-Jean-Baptiste en 1968, il était là caché sous un vieux chapeau observant la violence policière. Au moment du Week-end rouge en 1974, il était là aussi pour aller voir les incendies criminels pendant la grève des pompiers, et ce qui l'amenait ensuite à porter un meilleur jugement sur les événements, faire des suggestions, notamment dans ce cas-là au maire Drapeau qui l'avait invité à négocier avec les pompiers. La pondération et l'équilibre de Claude Ryan valorisaient le conduisait spontanément à rechercher les compromis. Selon l'expression de Lise Bissonnette, il était l'homme de l'extrême milieu. Il ne faut pas croire que sa pondération était un refuge pour éviter la confrontation des idées. On l'a vu particulièrement dans la crise d'octobre, sur laquelle je me permettrai de ne pas revenir, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il a fait pendant la crise d'octobre? C'est tout simplement de laisser le journal jouer son rôle d'opposition pour défendre les valeurs d'une société démocratique. Ce sera l'un des très grands moments de l'histoire de ce journal, le plus fort sans doute. Pourtant, on pourrait dire que le devoir ne fait que informer, expliquer, analyser, proposer, tout en se gardant de tomber dans le piège de l'émotion et de la paranoïa ambiante. Dans les circonstances, c'était beaucoup, car partout dans les autres médias, on se pliait à la volonté du pouvoir, alors que le devoir, lui, était le seul à se tenir debout. L'événement de la crise d'octobre a été un événement tournant pour le devoir. À cette époque, 1970, on connaît les tensions qu'il y a au Québec. Ryan fait entrer de jeunes journalistes au devoir, dont Lise Bissonnette, moi-même, Jean-Pierre Charbonneau. Il y a beaucoup d'enquêtes qu'il mène. On fait du journalisme d'enquête et il est toujours là pour nous appuyer. Tout à l'heure, on disait que M. Ryan a été beaucoup opposé. Un de ses principaux adversaires était Pierre Trudeau. Je pourrais ajouter que son deuxième principal adversaire a été Jean Drapeau. Et dans les années 70, jusqu'au départ de M. Ryan du journal, le devoir était devenu un journal d'opposition au régime Drapeau à Montréal, tout comme il l'avait été au régime Duplessis dans les années 70. Je passe sur son entrée en politique, dont on a abondamment parlé, mais je vais conclure, parce que le temps manque, sur sa carrière de journaliste et sa vision de la liberté de presse. Quand il est arrivé au devoir, Claude Ryan n'était pas un journaliste de profession, mais néanmoins, je dirais qu'il a porté le journaliste au plus haut niveau qu'il soit au Québec et au Canada. À l'époque où il arrive au journal, il juge très mal la profession où, dira-t-il, on laisse entrer trop souvent n'importe qui. Le devoir était déjà exemplaire, il le sera encore plus sous sa direction. Le patron est exigeant, il recrute de jeunes collaborateurs qu'il va chercher à l'université, il veut de la profondeur, la rigueur intellectuelle qu'il s'impose, il la demande à ses collaborateurs. Le souci d'unité qu'il dit vouloir imposer au moment de prendre la direction du journal ne sera pas qu'affaire de gestion. Il a donné un ton, un style au devoir, une personnalité distincte dans le monde journalistique. En 1964, il disait vouloir faire un journal propre, compétent, vivant, informé, sérieux. C'est ce qu'il a fait et au surplus, il en a fait un organe de presse libre de ses choix. Libre de ses choix, mais responsable. Et je termine en le citant dans un texte paru en 1964. Il dira à propos de la liberté de la presse qu'il n'y a pas de presse entièrement libre. Il y a plutôt des entreprises de presse qui sont plus ou moins libres selon la qualité de la part de chacun des acteurs qui y sont impliqués. À ceux-ci, ces acteurs, ils rappellent que la liberté de presse comporte le droit d'informer, de communiquer, de diffuser, mais elle comporte aussi un autre volet tout aussi important, le droit du public à une information vraie, complète et objective. Il ajoutait, la presse a un devoir inaliénable envers la vérité, la recherche et la diffusion de la vérité sont sa raison d'être. C'est dans le service de cette exigence que la liberté prend toute sa signification. Autrement, elle n'est que licence anarchique. Je crois que ça résume vraiment la pensée profonde de ce que fut Claude Ryan comme journaliste. Merci.
Merci beaucoup, M. Descoteaux. Avant de passer à Mme Galichon, je tiens à remercier Mme Eva Ludwig, qui est la représentante du commissaire aux langues officielles pour la région du Québec, pour son courage d'arriver ce matin dans cette tempête de neige de Ottawa. Merci beaucoup.
Alors, ça va? Merci. Avec moi, on va aborder des questions plus de forme. Je vais vous parler de la perception que nous avons eue, particulièrement les journalistes de la presse écrite, dont je fais partie. Et à travers de tout cela, bien entendu, la grande qualité des messages de M. Ryan, mais parfois, il y avait une difficulté à faire passer ce message de l'autre côté de la rampe. Alors, c'est de cela que je vais vous traiter en trois blocs. Dans un premier temps, la perception que nous avions à la tribune de la presse parlementaire à Québec du Claude Ryan des années 60, puis ensuite jusqu'en 1978, donc l'éditorialiste. Mon deuxième bloc, ce sera pour vous parler de la perception que nous avons eue du politicien Claude Ryan. Et je garde le troisième bloc pour vous parler de la perception de l'être humain. Je vous fais remarquer qu'à la fin des années 60, nous étions la jeune relève journalistique dans la vingtaine, et les plus vieux, la jeune trentaine. Et nous devions ajuster à cette époque l'exercice du métier à la prépondérance croissante de l'électronique, où je travaillais. Et nous étions individuellement de cette génération qui a fait éclater les tabous et les vieux préceptes. Claude Ryan était perçu par nous à la colline parlementaire comme, tout le monde en a parlé ce matin, l'éminence grise à influence très prépondérante en haut lieu. Et puis, d'accord ou pas avec ses conclusions éditoriales, nous le lisions tous parce que c'était une nécessité professionnelle. Un mot à son égard, le respect. À noter que sa plume n'était pas seulement accessible qu'aux intellectuels et aux initiés. Ce qu'on peut appeler le petit monde le lisait aussi. Il avait ce talent d'écrire pour que tous le comprennent et suivent sa logique, d'où sa force et son influence. À la tribune de la presse à Québec, nous le savions très pieux, austère et sévère avec ses journalistes. Une autre remarque importante qui recoupe ce que Bernard vient de vous dire, pour plusieurs d'entre nous à la tribune de la presse, il était, et peut-être parmi les plus jeunes justement, il était dans une sorte de catégorie à part du métier de journaliste, journaliste bien sûr, mais un peu à part. On le croisait de temps à autre, bien entendu, dans les congrès politiques, dans les grands événements spéciaux où il prenait des notes et vivait l'ambiance comme nous. Et il faisait partie du cercle du métier, mais comme plusieurs autres penseurs et commentateurs, c'était pour nous comme un dieu de l'Olympe qui se prononçait sur ce que nous, les ouvriers de la base du métier, apportions au moulin des informations. Alors, en cela, il aurait toujours eu une différence. Il n'y avait pas de, tout le monde l'a dit d'ailleurs ce matin, il n'y avait pas de copinage possible avec M. Ryan. J'arrive donc maintenant à la perception du Ryan des années 78 à 94, le politicien. Et ici, le mot « perception » revêt une importance cruciale. En politique, tout est affaire de perception. Et rendu à la fin des années 70, l'utilisation des moyens de communication électronique était devenue, et cela déjà depuis belle lurette, essentielle. Or, l'intellectuel Claude Ryan était, mais à des années-lumière de cette réalité. Et je ne doute pas que ses conseillers et amis aient tenté de le convaincre de l'importance de l'image en politique. Mais il s'est entêté toute sa vie politique durant à dire « qu'on me prenne comme je suis, c'est ce que je dis qui compte ». Mais ce qu'il disait, encore fallait-il l'entendre avant de pouvoir l'écouter. Je vais vous donner des exemples pour la radio. Bon, vous vous souvenez que M. Ryan avait une voix assez monocorde, hein, avec une diction serrée, donc des difficultés pour ce type d'élocution, ce n'était pas très radiophonique. Pour la télévision, il avait, en lisant ses textes, la tête très baissée, sans lever la vue ou pratiquement pas. Donc, le caméraman qui était en face de lui ne voyait. On cherchait des clips, parfois le bon clip, mais on voyait rien que le dessus de la tête de M. Ryan. Souvent aussi, dans les campagnes électorales, les caméras sont de côté. Alors, pendant l'essentiel de son discours, s'il était à un lutrin, il y avait sa main ou son doigt entre la caméra et son visage. Alors, le bon clip était parfois aussi gâché par ça, ou encore complètement gâché parce que le clip que nous trouvions bon et qui aurait pu résumer son propos pour le téléjournal était coupé en plein milieu d'une phrase par son rire caractéristique. Alors, difficulté de montage et... on avait des difficultés de montage et radio et télévision. Son propos, donc le contenu, était toujours de grande qualité, étoffé, solide. Mais ces difficultés que je viens d'évoquer altéraient malheureusement la perception de son message par les auditeurs radio, par les téléspectateurs des bulletins de nouvelles du jour, des téléjournaux du soir. Et aussi, il ne faut pas négliger cela, les spectateurs militants ou autres dans les vastes amphithéâtres de congrès ou les salles de rassemblement politique, sans oublier les organismes qui l'invitaient comme conférencier. Sa réflexion, son argumentaire était le fruit d'une grande richesse intellectuelle et son redoutable petit calepin noir, qui ne l'a jamais quitté, comme tout le monde vous l'a dit, recelait d'irréductibles répliques. Mais trop souvent, elle passait mal la rampe ou la passait, mais laborieusement. De 78 à 94, le Québec a vécu des épisodes fascinants qui ont été évoqués. C'était et socialement et politiquement. Le Parti québécois venait de prendre le pouvoir. Robert Bourassa n'avait pas été réélu, s'était retiré. Et pour assurer une voix forte d'opposition et garder le Canada uni, on est allé quérir Claude Ryan dans sa tour d'observation. Et on l'a jeté avec son consentement dans cette fosse au lion. Avec son consentement, parce qu'il a vu, là, lui, un signe du destin, le devoir d'État. Dès lors, les moments intenses se sont succédés. Lui-même, dès le début de 1980, a présenté son livre beige avec sa conviction du fédéralisme renouvelable. Quelques mois plus tard, le référendum a été remporté par le camp du non. Mais à quel prix pour l'image de leadership de M. Ryan, qui a été, à nos yeux, en tout cas, les journalistes d'électronique, tassé par les, ou plutôt la vedette fédérale. Puis ce fut l'échec électoral de 81, cuisant pour lui. Il démissionne comme chef. Il y a eu le rapatriement unilatéral de la Constitution, le retour de Robert Bourassa à la tête du parti, et enfin, pour Claude Ryan, l'expérience du pouvoir à partir de 1985. Mais ce fut avec des ministères importants, des dossiers difficiles. John vous en a évoqué quelques-uns tout à l'heure, ces ministères importants et les dossiers. Et je me rappelle, quand il l'a mentionné tout à l'heure, sur la loi 86, la loi sur l'affichage, il y a eu en commission parlementaire, lors de la consultation qui a eu lieu, un échange acerbe, dont on se souviendra peut-être, Bernard aussi, avec la présidente de la CEQ à l'époque, Mme Pagé et M. Ryan, et c'était sur les classes d'immersion, je crois, mais c'était rude et difficile. Et c'en était un peu triste, je vous avoue. Puis l'échec de Mitch, le rapport à l'air, il ne faut pas l'oublier, le rapport à l'air et la scission dans le parti. On disait alors que Ryan avait gagné contre l'air et les jeunes libéraux menés par Mario Dumont. Puis le rapport Bélanger-Campeau, signé avec nuance. Il y avait une nuance signée en addendum de la part de M. Ryan et M. Bourassa aussi. Il y a eu l'échec du référendum pan-canadien sur Charlottetown en 92. Et finalement, sa décision de lâcher prise en 94, il ne s'est pas représenté. Donc, son passage en politique active a été pour cet intellectuel un bouleversement éprouvant et pour cet homme, un tourbillon quotidien dans lequel toutes ses valeurs fondamentales, sa manière de vivre, ses convictions et sa pratique religieuse étaient bousculées et même, assez souvent, même, je devrais dire souvent, raillées. Il fut en quelque sorte un solitaire en marge de la mouvance de l'époque à laquelle toute la faune politique autour de lui était par ailleurs inscrite. Hein? On s'arrachait la possibilité d'être au téléjournal le soir. Tout le monde courait les micros et les caméras. Alors, dans un tel contexte, son image fut dès lors étiquetée, je dis étiquetée comme rétrograde. Son intelligence, cependant, sa grande intelligence, devait certainement lui indiquer qu'il aurait été approprié de chercher à développer tant soit peu ce flair, parce que ça se développe, cela se peut, et d'accepter de suivre les recommandations des spécialistes en communication. Je considère que c'est dommage, c'est très dommage, mais son entêtement à ne rien changer à son image aura, à mon avis, nuit beaucoup à sa carrière politique. Et l'inconfort permanent d'une telle situation, même s'il le reniait, cet inconfort, a dû gruger sournoisement sa santé physique. Parce que Claude Ryan était un être sensible, demandé à ses enfants. Ça m'amène à mon dernier bloc, la perception de Claude Ryan, l'être humain. Il a dû souvent, pendant sa vie politique, ressentir ce que Félix Leclerc décrit comme grande blessure dessous l'armure. Parce que avoir une conversation privée avec lui nous permettait de découvrir un propos beaucoup plus nuancé que ce que le guerrier bagarreur, plutôt cassant, présentait sur les tribunes et au Parlement aussi. On découvrait un être étonnamment gentil, accueillant, content de discuter individuellement avec nous, rigoureux, mais pas si sévère et pas si intransigeant que ça. Et il aimait discuter. Et puis Claude Ryan, aux surprises pour plusieurs, avait été capable d'humour, même d'autodérision. Mais nous continuions néanmoins à éprouver des difficultés techniques à l'interviewer, à l'intérieur d'un bloc toujours trop court pour les besoins de son exposé, et lui demeurait imperturbablement indifférent aux besoins de la télévision. Après qu'il eut quitté la vie politique, nous avons continué de le consulter, et pendant toute la période pré-référendaire de 1995, il était invité régulièrement à l'émission spéciale hebdomadaire que j'avais le plaisir de présenter à Radio-Québec sur les travaux des commissions sur l'avenir du Québec. Bien entendu, il était toujours fédéraliste et convaincu de la possibilité d'une réforme constitutionnelle, mais son propos, comme analyste, comme commentateur, était toujours correct, honnête à l'égard des idées des autres. Nous retrouvions avec bonheur l'intellectuel éditorialiste beaucoup plus détendu et agréable que le politicien. Il fut également consulté par nous et tous les autres médias pendant et après la campagne référendaire de 1995 et ainsi de suite. Et d'ailleurs, il a été mentionné ce matin cet ouvrage paru en 2002. Peut-être que M. Charest vous en parlera pendant le repas à midi sur les valeurs libérales dans un Québec moderne qu'il avait demandé à M. Ryan. Alors, j'arrive en conclusion. Quand Claude Ryan est entré en politique active, vous devinez que son allure un peu épiscopale et rébarbative a eu vite fait d'inspirer la caricature analogique et même la dérision. Alors, c'est un peu cette image, on le percevait austère et d'une époque révolue. Mais, à l'autre bout du parcours, demeure le souvenir d'un être humain à prime abord distant mais approchable, sévère mais sage. Vous savez, cette personne vers qui on est porté à aller lorsqu'un problème personnel ou professionnel nous accable et à qui on demande « Ben, qu'est-ce que je fais avec ça ?» Alors, voilà, je pense que s'il était toujours de ce monde, et en assez bonne forme, je suis certaine qu'à 89 ans, il écrirait encore son point de vue. Et personnellement, oui, peut-être sur la charte, je n'avais pas pensé de l'écrire ici, mais j'ai pensé vous écrire cette dernière phrase à cause peut-être de sa relation avec, parfois tendue, et avec M. Trudeau. Vous savez, j'aurais tellement aimé au lendemain de la parution l'an dernier de l'ouvrage de Frédéric Bastien sur les dessous du rapatriement de la Constitution, j'aurais tellement aimé lire un blog signé Claude Ryan. Voilà.
Merci, Mme Galichon. Maintenant, on passe à la réplique avec Monsieur le professeur Marc Leboy.
Merci. Vous savez, le rôle du répondant est toujours un peu ambigu parce que, d'une certaine manière, tout a déjà été dit, mais il reste encore des petites choses qui sont peut-être encore à rajouter. On ne peut pas s'empêcher de le faire. Alors, d'abord, je suis très content de faire partie de ce groupe parce qu'on est tous à peu près de la même génération de gens qui ont été influencés dans leur début de carrière comme journaliste par M. Claude Ryan, n'est-ce pas? Et Bernard Descoteaux et Gisèle Galichon ont mentionné des éléments de ça. Mme Galichon, l'a dit directement, l'importance pour la relève journalistique du début des années 70 des éditoriaux matinaux de M. Ryan qui étaient incontournables pour tous les gens qui travaillaient dans ce métier-là, mais surtout pour les gens qui étaient plutôt en début de carrière. C'était vraiment important parce que ça dressait le portrait de l'agenda. Et M. Ryan, c'était vraiment un agenda setter. Ça, c'était clair. M. Descoteaux a mentionné sa nature de journaliste citoyen, qui est aussi quelque chose, je pense, extrêmement important, parce que pour Claude Ryan, non seulement le journaliste, mais aussi le journal, et le journal indépendant, comme Le Devoir, en l'occurrence, c'était un acteur social, et pas un acteur intéressé par un acteur qui allait défendre des points de vue de ses propriétaires ou d'une partie de la population qui était en quelque sorte son auditoire, mais l'ensemble de la société. Et ceci dit, un des aspects extrêmement essentiels pour des journalistes, c'était non seulement la rigueur avec laquelle il approchait les dossiers qu'il traitait, mais aussi la clarté de ses positions sur des questions extrêmement complexes. Hein. On se rappelle des colonnes pleines et pas faites de la page éditoriale de Devoir. On pouvait des choses incroyables. À peine 12 heures après le dépôt d'un rapport volumineux de centaines de pages à l'Assemblée nationale, vous aviez une analyse d'une clarté impensable. Alors ça, c'est des choses qui sont très appréciées de sa part. Moi, j'ajouterais un élément que je n'ai pas entendu évoquer ici au colloque et qui, en fait, est très peu évoqué. C'est l'impact de Claude Ryan sur la presse anglophone de Montréal à la fin des années 60 et début des années 70, très particulièrement. Et c'est quelque chose d'assez étonnant. Ça n'a jamais été étudié ou exploré en profondeur, à ma connaissance, mais comme jeune journaliste dans un journal qui malheureusement défunt aujourd'hui, qui s'appelait The Montreal Star, c'était surprenant à quel point les éditoriaux de Claude Ryan étaient non seulement lus, mais discutés et prise en considération jusqu'à dans les affectations. Hein? On entrait au journal le matin et l'affectateur ou le news editor, le pupitre, disait, il faut aller couvrir la réunion de la commission de la... Comment ça s'appelait déjà là? La commission scolaire catholique de Montréal. Parce que la CECM, le Montreal Star envoyait un jeune journaliste couvrir une réunion de la CECM parce que Claude Ryan avait parlé de ça dans son éditorial, d'une grande décision importante qui s'en venait pour nous. Quotidiennement. Alors, je peux vous avouer comme témoin que la lecture de Claude Ryan dans la salle des nouvelles de la presse anglophone de Montréal de ces années-là a été aussi incontournable qu'à la tribune de presse de l'Assemblée nationale, sans aucun doute. Alors, il y avait cette rigueur, il y avait aussi la responsabilité qu'il manifestait dans ses prises de position, qui n'était jamais prise faite à la légère, hein, n'est-ce pas? C'était vraiment toujours nuancé. On voyait tous les côtés de la médaille. Et juste avant de venir ici ce matin, j'ai relu son éditorial, peut-être seulement parmi les plus courageux de sa carrière, sinon le plus courageux, l'éditorial qu'il a fait le lendemain de l'invocation de la loi sur les mesures de guerre, où il prend position non équivoque contre l'introduction par M. Trudeau de la loi des mesures de guerre, mais en apportant vraiment des arguments, des raisons pour démontrer pourquoi ce n'était pas le bon instrument. Et avec plusieurs raisons pourquoi ce n'était pas le bon instrument. Parce que ça empiétait sur les pouvoirs du Québec, parce que ça empiétait sur les libertés, les droits humains, ainsi de suite. Et il savait, et ça transparaît dans cet éditorial, que ce n'aurait pas le but voulu. Ce n'était pas ce genre d'instrument qui allait résoudre la crise d'octobre. Et, bien sûr, en tout cas, à mon avis, il avait raison. Il avait raison et l'histoire lui a donné raison. Mais là, encore pour revenir à ce que je disais tantôt, en travaillant chez le concurrent, un des concurrents à l'époque, c'est sûr que cette position prise par Claude Ryan en 1970 était unique dans la presse du Québec et c'était quelque chose sur laquelle, je pense que l'ensemble de la presse francophone et anglophone, avec la seule exception de Devoir, était, peut-être on disait que c'était le moindre mal, mais on était en faveur de la démarche d'Ottawa. Mais dans la salle des nouvelles, je ne sais pas comment c'était dans les autres journaux, mais au Montreal Star, dans la salle des nouvelles, parmi les jeunes journalistes qui suivaient de très près et qui essayaient, malgré toutes les barrières encore présentes dans les deux solitudes au Québec à l'époque, on était plutôt d'accord avec la position de Claude Ryan et je dirais même qu'on était fiers qu'un journaliste, un simple journaliste, quelqu'un de qui Pierre Trudeau disait à l'époque, lack of power corrupts, an absolute lack of power corrupts, absolutely. Avec quelqu'un qui savait se tenir debout dans cette situation-là. Deux petites anecdotes. Quand j'étais étudiant ici à McGill à la fin des années 60 et j'étais actif au journal étudiant de McGill Daily et il y avait une effervescence sur le campus McGill comme sur les autres campus universitaires à l'époque. Et à un moment donné, il fallait élire le nouveau directeur pour l'année suivante. Et le conseil d'administration, le conseil étudiant qui était le conseil d'administration journal, n'arrivait pas à trancher. Il y avait deux candidats, un de gauche, un plutôt conventionnel de droite. Et alors, le conseil a décidé, on va aller demander conseil à Claude Ryan. Et oui, et c'était au printemps 68. Et imaginez-vous, Claude Ryan s'est déplacé pour venir ici, à 50 mètres d'ici, au centre universitaire de McTavish. Une assemblée houleuse. Les deux candidats se sont présentés. M. Ryan écoutait, ne disait pas un mot. Il écoutait. L'assemblée s'est terminée et le conseil s'est donné un autre rendez-vous en attendant l'avis de M. Ryan. Apparemment, le lendemain matin, Claude Ryan avait téléphoné au président du conseil étudiant et dit, écoutez, vous n'avez qu'à prendre votre responsabilité. Vous avez deux candidats compétents, très différents l'un de l'autre. Vous n'avez pas besoin de moi. Prenez votre responsabilité et décidez qui va diriger votre journal. En parenthèse, c'est le candidat de gauche qui l'a emporté, mais c'était vraiment une autre leçon, si je peux dire, de Paul Ryan, c'est qu'ils font, en fin de compte, que les gens prennent leurs responsabilités. Et c'était ça aussi, ça faisait partie du message qu'il passait, je pense, dans ses prises de position sur les grands enjeux sociaux. Deuxième petite anecdote, en 2000, M. Ryan était déjà ici à Newman House, je crois, à l'époque, et l'université avait reçu un don de la Fondation Beaverbrook pour créer un chaire en médias. Et l'université avait demandé à Claude Ryan de présider le comité de recrutement, recherche des candidats, ainsi de suite. On m'avait suggéré de postuler ce poste. Je l'ai fait, je suis venu, j'ai passé en entrevue. Si vous avez déjà été dans une telle situation, vous savez qu'on se rappelle un peu de ce qui s'est passé. Mais à la fin du processus, il y avait, on avait organisé un repas dans un restaurant de la rue Laurier. M. Ryan m'a offert un lift. Il m'a dit, pouvez-vous venir embarquer avec moi? Je dis, OK, peut-être que l'entrevue va continuer, je ne sais pas. Alors, j'ai embarqué avec lui. C'est la seule fois dans ma vie que j'ai eu une conversation personnelle avec lui. Et ça m'a vraiment étonné et surpris parce que c'était pas du tout, et là, comme tous les gens ont témoigné, c'était pas du tout le personnage qu'on voyait en public. Il était drôle, il était mordant. Et ce qui m'avait un peu choqué, c'est qu'il parlait des membres de son comité que je venais de voir dans mon entrevue. Et apparemment, il y a eu beaucoup plus que le personnage qui opérait la chaire. Le débat avait tourné autour de où le chaire serait situé. Dans quelle faculté, dans quel département, ainsi de suite. Et à un moment donné, il me dit, on parlait en français, mais il a dit en anglais, il dit, vous savez, M. Lavoie, Henry Kissinger used to say, the reason academic politics are so ferocious is because the stakes are so small.
Merci aux trois interveners aujourd'hui pour ce moment très riche. On a parlé de Claude Ryan, intellectuel public, mais on est tombé sur Claude Ryan, l'homme des détails, comme a dit M. Descoteau, le micromanager, comme Marc Raboy a dit, the agenda setter, l'homme de vision. Et comme Mme Galichand l'a dit, l'homme existentiel, l'ami auquel on va demander qu'est-ce que je dois faire. Donc, s'il y a des questions, on peut prendre deux questions, ça, Robert? Oui, deux questions, s'il vous plaît.
Deux questions? Non? Lunchtime, I guess. Peut-être. Non. Oui. Oui. OK. Well, alors, si tout le monde est prêt pour le déjeuner, c'est le moment de remercier certaines personnes. There have been many amazing things about this symposium. One of the most amazing is that planning began in the third week of December. And here we are in the middle of February with a major symposium on Claude Ryan that speaks both of the man as well as the extraordinary cooperation and teamwork of particular individuals. Donc, je voudrais remercier CARDUS, l'Institut d'études canadiennes de McGill, le Centre Newman, et en particulier l'Université et plusieurs départements et facultés dans l'Université McGill, le Provost, le doyen de la faculté des arts, le doyen de la faculté des études religieuses, et notamment les membres du bureau des communications et des relations externes. J'aimerais remercier aussi mes collègues dans le comité exécutif, le professeur Daniel Seary, Madame Anne Leahy, Monsieur Olivier Marcel, le professeur Jean Zucchi, et Madame Carole Graveline, la directrice des relations médiatiques, qui malheureusement n'a pu pas être ici aujourd'hui à cause d'une obligation professionnelle qu'elle a dû prendre à Chicago. It would be remiss of me not to thank the administrative staff for their tireless work, Hoda Tebekrani, Linda Diaz, Nathan Gibbard, and Stephanie Rosler, a host of students from the Newman Center, and our web designer, Julian Casa. Finalement, j'aimerais remercier les intervenants du symposium et vous, mesdames et messieurs, pour votre participation malgré la tempête de neige aujourd'hui. C'était un grand plaisir d'être avec vous dans ces deux jours et je vous souhaite une très belle journée. Merci.
Attendre. Un très, très, très gros merci à Robert qui a vraiment travaillé beaucoup, beaucoup pour cette conférence. Merci beaucoup, Robert.